Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Harry Bellet et Jean-Max Collard se font face à notre affiche Matisse et la gravure, l'autre instrument, c'est au musée Matisse au Cateau Cambrésis. Et puis deux expositions au Centre culturel suisse, celle de Denis Savary et celle de Sabine Baumann. Nous évoquerons aussi plus rapidement Tabou à la maison particulière à Bruxelles. Et puis Renaud Jerez à la galerie Crève-Cœur à Paris. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le film « Peace to Us in Our Dreams » de Sharounaz Bartas, sorti en salle aujourd'hui. Ce qui tombe bien, c'est que justement, le cinéaste et comédien lituanien est toute cette semaine l'invité de la dispute. Nous ouvrons cette émission nous rendant au musée Matisse du Cateau Cambrésis, un beau musée qui fait un beau travail de valorisation de son très beau fond et de mise en perspective de l'œuvre d'Henri Matisse. Cette fois, le directeur et commissaire de l'exposition, Patrice Deparpe, a donc choisi de mettre en avant le travail de gravure. De 1900 jusqu'à sa mort, Matisse n'a cessé de travailler les différentes techniques de gravure, de la pointe sèche à la lithographie, de l'aquatinte au monotype, de l'eau forte à la linogravure et quelques autres. Rien que pour différencier ces différentes techniques, cette exposition vaut le détour, puisqu'on saura tout sur les différents types de gravure, mais il s'agit surtout de Matisse, l'un des artistes de toute façon les plus passionnants du XXe siècle. L'intérêt est donc bien plus grand. Le catalogue raisonné des œuvres de Matisse recense plus de 800 estampes, 90 livres illustrés par Matisse. L'exposition du Cateau Cambrésis rassemble près de 200 œuvres issues de différentes techniques, donc beaucoup d'inédits ou du jamais vu dans cette exposition, ou des ensembles rares, comme les différentes étapes de la danse. Bref, beaucoup à dire. On commence avec Harry Bellet.
Ciel. Le sous-titre de l'expo, c'est l'autre instrument. Et c'est parfaitement trouvé parce que je dois avouer que j'avais vu, il y a quelques années, une exposition des gravures de Matisse qui était vraiment faite pour les amateurs de Matisse. C'était ça qui n'avait absolument aucune explication. C'était magnifique, il y avait presque tout, mais on n'y comprenait pas grand-chose. Là, au contraire, il y a un vrai boulot de pédagogie sur la gravure. Ce qui est assez amusant, c'est qu'un des médiateurs du musée du Cateau Cambrésis est graveur, et il a initié tout le personnel à la gravure avant de commencer.
Ça en dit long sur le fonctionnement fonctionnement du musée.
Excellent. Ils ont d'ailleurs reçu un prix cette semaine, le trophée Momard.
Comme les enfants, vous voulez dire.
Voilà.
Parce que quand vous mimez à la radio, ça passe moins bien.
Je peux pas vous le cacher. C'est dommage. J'ai pourtant des beaux gestes, mais.
C'est un
prix qui récompense l'accueil des familles avec enfants, et ça, je veux dire que de ce point de vue-là, ils font un boulot remarquable.
Bah, je l'évoquerai d'ailleurs, parce que je donnerai quelques dates, mais tous les mercredis, des conférences, et en même temps que les conférences, il y a des ateliers pour enfants. Donc les parents peuvent aller écouter les conférences, les enfants, eux, s'initient à l'art.
Ils découpent du papier, mais avec un bonheur non dissimulé. Bon, l'autre instrument, parce que aussi, ils travaillent la gravure d'une manière totalement irrationnelle. Autant Dürer, on avait fait une planche à billets,
avoir quelques billets de Dürer.
Il avait embauché de représentants uniquement pour fourguer ses gravures. Il avait renoncé à faire le retable d'Isenheim parce que les gravures lui rapportaient plus.
On lui en ségrait aussi, malgré son immense talent.
Voilà. Matisse, non, c'est pas ça. C'est maximum 25 exemplaires, parfois un seul. Donc c'est vraiment à usage interne. Et puis on sent qu'il essaie l'objet au même titre qu'il aurait essayé une sculpture ou un tableau. Il y a une sculpture d'ailleurs. Enfin, c'est pas une sculpture, c'est la gravure d'une sculpture. Et on se demande si, à un moment donné, il a hésité. Est-ce qu'il n'aurait pas fait plutôt la gravure plutôt la sculpture? C'est vraiment étonnant. Ce qui est très marrant aussi, c'est qu'il va pas du tout travailler comme le graveur traditionnel en faisant plus, sauf une fois. La toute première gravure qu'il fait en 1900, c'est son autoportrait comme Rembrandt de face en train de graver. Et là, il va faire plusieurs étapes de la plaque de cuivre. C'est-à-dire qu'on commence à la graver, on fait un tirage, on regrave un coup, on refait un tirage, il y en a quatre. Bon, là, c'est la seule. C'est la seule fois. Les autres fois, c'est juste un état, pas deux. Et puis après, il raye. Alors, c'est très, 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 très joli, c'est que dans l'expo, ils ont les plaques de cuivre, les linots, les pierres de litho, à côté des. Et toutes rayées, d'ailleurs. Mais alors, de moins en moins rayées. au début, c'est carrément du Fontana, et puis à la fin, c'est deux petites barres, histoire de dire, bon, ben voilà, j'ai fait deux petites barres, mais on sent qu'il a le respect pour son travail quand même s'il est plus exploitable en matière de tirage. C'est vraiment étonnant.
Je reviens vers vous dans un instant, Harry. Jean-Max Collard, premier regard sur cette expo au Cateau Cambrésis.
Oui, alors d'abord, effectivement, sur l'aspect technique de la gravure, et c'est vrai que l'exposition a des grandes qualités comme ça de pédagogie. Moi, je pense que je peux faire cet aveu, mais peut-être que quelques auditeurs l'auront déjà compris. Moi, je n'ai pas fait d'histoire de l'art. Vous voyez, je n'ai pas étudié l'histoire de l'art, j'ai plutôt fait des études de lettres. Et je dois dire que les quelques fois où je m'y suis un peu aventuré, je me suis aventuré à l'université, il y a une vingtaine d'années, en histoire de l'art, ce qui m'a fait un peu abandonner la chose, c'est un cours sur la gravure. C'était tellement technique, et je le suis tellement peu aussi, il faut bien dire, que vraiment, j'ai lâché l'affaire, et je suis allé vers le contemporain, c'était aussi très très bien. Mais j'en avais retenu une chose de ce cours, qui avait lieu d'ailleurs à Bibliothèque Richelieu, c'était justement Matisse et la linogravure. C'est-à-dire que pour faire la linogravure, il faut entailler la pâte quand elle est encore molle, en quelque sorte. Et donc Matisse se faisait la main avant sur le dessin pour avoir un trait justement complètement délié et qu'en fin de compte, il ne soit pas empêché par la matière. Alors je peux le dire, voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de ce cours sur la gravure, et ça tombait bien, mais ça dit d'abord toute la recherche évidemment que fait Matisse sur ce médium, et comme l'a dit très justement Harry Bellet, c'est presque par moments incompréhensible, quoi. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi il passe par la gravure, alors que effectivement il n'en fait pas de tirage, il en fait des tirages, mais en très faible nombre, 25, 1 parfois. Et si vous prenez par exemple les pierres, vous avez à un moment donné un alignement de très grosses pierres qui font chacune 70 kilos, enfin c'est vrai, hein. Et Matisse juste les entaille, il s'en sert comme une feuille à dessin, c'est quelque chose d'hyper léger, il y a une sorte de paradoxe total entre la lourdeur de la pierre et la légèreté absolue du dessin qu'il y applique, et puis ça sert une fois, il la pose à côté comme si c'était un dessin, sauf que c'est une pierre de 70 kilos. C'est extrêmement difficile, et c'est extrêmement surprenant justement de voir comment en même temps Matisse a toujours pratiquer la gravure. Donc il y a un attachement, il y a une variété d'investissement dans les divers procédés de la gravure, ce qui fait que c'est vraiment une pratique avérée dans son travail, et en même temps, elle dialogue tellement avec le dessin ou d'autres arts que c'est très particulier. Alors, on peut s'interroger. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Il y a un faisceau de réponses. Et c'est là où on touche évidemment un peu aussi à la question du génie. La première réponse, c'est effectivement que, fin de compte, c'est un terrain d'expérimentation, comme l'a dit Arimé, c'est à usage interne, et ça permet à Matisse d'avancer dans son propre art parallèlement à ses expériences en termes de peinture ou de sculpture. Donc les choses avancent de front, et du coup c'est un endroit où il peut comme ça faire des expériences, creuser une voie autour notamment des questions de figuration. Mais je crois qu'il y a un autre aspect qui est évidemment intéressant, c'est la question de l'image inversée, parce que pour obtenir une image gravée, vous devez, quand vous gravez le bois, par exemple, vous devez évidemment penser l'image à l'envers, puisqu'après elle sera imprimée, enfin bon bref, je reviens pas sur la technique, j'y connais rien. Mais
ça, je crois que tout le monde a compris.
Voilà, vous l'avez bien compris. Mais il y a cet exercice intellectuel insensé qui consiste juste à dessiner à l'envers. Et quand vous voyez sculpter à l'envers un futur dessin, et quand vous voyez les bois gravés, alors vous regardez les bois gravés, ils sont entaillés de partout, c'est vraiment un combat avec la matière. Et on ne reconnaît absolument aucun dessin dans ce bois gravé. Et puis à côté, vous avez la gravure sur bois tirée de cette plaque. Et c'est une sorte de baigneuse, enfin de figure féminine allongée. Et là, c'est très léger et c'est très doux. On se dit quand même, c'est très particulier. Et au fond, cette image inversée, c'est un exercice intellectuel qui permet à Matisse aussi, du coup, de ne pas être dans un rapport direct au réel. C'est-à-dire que du coup, quand il dessine ou quand il grave, eh bien, il ne peut pas être dans un rapport de mimésis, il ne peut pas être dans un rapport photographique, il n'est pas dans un rapport d'imitation réelle, il est d'emblée dans un travail de recomposition. Et du coup, ça éloigne en quelque sorte la mimésis, quand bien même, et c'est là où ça en redevient compliqué, quand bien même certaines gravures ont une précision photographique. Donc voilà, moi je trouve que c'était fascinant, cet ensemble est très bien fait, l'exposition est magnifique, et c'est fascinant, presque par moments, d'incompréhension vis-à-vis justement non pas des techniques mais vis-à-vis du génie quoi. Ça c'est indéniable.
Mystère du génie à Ribélé, vous l'avez ressenti.
Oui, et puis Jean-Max Collard a parfaitement raison d'insister sur les bois gravés, parce que là c'est fantastique. Il y a deux plaques de bois, c'est les deux seules qu'on connaisse. L'une a été prêtée et on les en remercie par le Victoria and Albert Museum qui s'en était, je crois, jamais séparé. Je crois grâce à l'entremise de Nicolas Serrota, mais bon. C'est Gauguin. C'est les sculptures de Gauguin. Et c'est vrai que le premier tableau que Matisse va acheter quand il aura 3 sous, c'est un tableau de Gauguin. Et il y a un petit défi, là. Ces bois auxquels, effectivement, dans lesquels on a du mal à lire l'image qui sera effectivement très précise une fois gravée, c'est de la sculpture, c'est pas autre chose. C'est absolument fabuleux. Il y en a deux. Et de la même façon que dans toute l'exposition, ils ont réussi à montrer, parce que c'est conservé par la famille Matisse, qui a été très très aidante sur cette exposition, ils ont montré les cuivres, les plaques de litho qui, elles, venaient du lithographe, Mourlot, je crois. Et puis, à chaque fois, on a la matrice, les dessins, les gravures, parce que c'est presque des dessins. Et puis parfois, la gravure rayée, c'est le cas de l'autoportrait, la gravure rayée a été tirée pour servir d'enveloppe à la plaque de cuivre elle-même rayée. Il y a une sorte de mise en abîme comme ça qui est absolument fantastique.
Et puis je le disais aussi, on réunit là quelques étapes de la danse, quelques travaux, ça fait partie des pièces assez peu vues.
C'est ce qui, oui, elles n'ont jamais été réunies. Enfin, pour que je sache, jamais réunis ensemble, elles sont dispersées dans plusieurs collections. Et Matisse, quand il fait la Fondation Barnes, la danse de la Fondation Barnes, d'abord il se gourre dans les dimensions, donc il est obligé de la refaire. Et puis il veut en garder une trace et il va faire une série de gravures, pas autre chose, après. Et là c'est très long, c'est une des deux, gravure en couleur de l'expo, ce qui est très drôle aussi quand on connaît la couleur de Matisse. Les deux seules couleurs, c'est la danse de la Fondation Barnes qui reproduit, et puis une dame qui s'appelle Marie-Josée en robe jaune, qui est une aquatinte, qui est encore une technique de gravure. Mais très peu de couleurs, c'est vraiment du dessin pur jus.
Ouais, parce que les couleurs justement, et notamment sur la danse, il y a des annotations de Matisse, enfin des notes
oui,
comme ça
qui disent
le rose est pas assez ceci, le vert est pas assez cela.
C'est ça, il y a des annotations, c'est vraiment comme un enfin, comme un élément de travail. On voit, du coup, évidemment, l'exigence dont on ne doutait pas. Et c'est vrai que c'est un ensemble très beau, comme ça, de frises qui se répètent, où la répétition d'une gravure à une autre participe un peu de ce fait. Et puis, il y a d'autres œuvres absolument magnifiques, des évocations d'autres figures dansées qui sont juste faites de trois traits. Et toujours ce paradoxe, évidemment, du fait que, dans la première salle, d'ailleurs, on nous montre les instruments de la gravure, avec des instruments durs, parce qu'il faut entailler la matière, etc. Et donc, voilà, il y a toujours ce paradoxe avec parfois vraiment des dessins qui sont au bord, évidemment, d'une abstraction, même si on reste dans une figuration, mais tellement épurée dans un objet qui lui-même est, enfin, dans un médium qui lui-même est densément matériel, quoi. C'est ce paradoxe très étonnant. Bref, c'est un très très beau parcours. Et alors, on peut aussi monter à l'étage, parce que moi, je n'étais jamais allé au musée Matisse, en fait, au Cato.
Dans sa ville natale, nous ne l'avons pas précisé.
Dans la ville natale.
C'est pour ça qu'il est là, ce musée.
Hein. C'est pour ça qu'il est là, et où Matisse avait composé notamment un grand vitrail, qui est toujours là-bas, et où autour duquel les enfants peuvent courir. Et donc, à l'étage, il y a des collections qui ont été aussi données par Herbin, le peintre, et puis vous avez tout un ensemble de Matisse et les premières salles sont toute première salle est assez intéressante parce que justement on évoque l'origine nordique de Matisse et les premières toiles c'est une sorte de Matisse qui est un peintre du Nord et donc c'est très étonnant et on voit bien qu'après évidemment il y aura le Sud il y aura Saint-Tropez avec les avec Seurat les pointillistes et bref il y aura toute une aventure de la couleur une recherche de la lumière la recherche du soleil. Mais il y a ce paradoxe. Et puis, il y a quand même des choses absolument magnifiques dans les collections permanentes. Ne serait-ce qu'à un moment donné, on passe dans un salon. Moi, j'aime beaucoup les périodes room, toutes les reconstitutions d'appartements. Et à un moment, on traverse un appartement.
Vous êtes servi, là.
Il y a trois chaises. Bon, on ne sait pas très bien exactement ce que c'est. Puis, on regarde au plafond. Et là, vous vous apercevez que Matisse a peint les portraits de ses trois petits-enfants, comme ça, au plafond, avec sans doute, avec évidemment une perche. Enfin, et ils ont décollé le plafond de la Villa Regina pour le ramener au Cato Cambrésis. Ça vaut quand même le coup d'œil. Quoi.
Vous êtes un familier de ce musée, Harry Bellet ?
Ah ben, j'adore le Nord et tous les produits qu'on y fabrique. C'est vrai que les enfants au plafond, alors c'est une belle histoire. C'est pas une perche, c'est une canne à pêche. Non, mais il faut imaginer.
Mais la technique, c'est pas son truc.
Voilà, il faut imaginer Matisse avec une canne à pêche peignant au plafond. Quoi. C'est juste totalement cinglé. Mais voilà, il y avait une précision qui devait lui permettre ce genre de choses. Ça se voit d'ailleurs dans sa gravure. Il y a aussi la salle qu'il avait fait, le salon qu'il avait fait pour Thériade, l'éditeur. Avec un arbre de vie ou je sais pas quoi, mais enfin qui est une pure hallucination. Surtout qu'il est tout petit ce salon. C'est bien la peine de faire de l'édition si c'est pour s'offrir un salon tout petit. Surtout quand on sait que Matisse va peindre dedans. Mais voilà, c'est vrai que les collections permanentes de ce musée sont remarquables. Il y a Herbin effectivement, mais il y a pas que. Il y a un vitrail de Joseph Albers. Il y a des choses étonnantes.
Voilà, beaucoup de raisons d'aller au Cato Cambrésis. Alors, pour le moment, l'expo en cours, c'est Matisse et la gravure, l'autre instrument. Elle dure jusqu'au 6 mars. Et puis donc, il y a les collections permanentes. Je le disais, hein, tous les mercredis, hors vacances scolaires, des conférences couplées à des ateliers pour enfants. Donc les parents vont suivre les conférences pendant que les enfants s'initient à l'art, ou l'inverse, allez savoir, ça dépend des familles peut-être. Les prochaines conférences, alors 24 février, puisqu'on a raté les conférences sur l'œuvre gravée de Dürer, celle de Rembrandt, ça c'est passé. À venir les estampes japonaises par Éléonore de Ruard, il y aura l'estampe impressionniste, une conférence de Gaël Cordier le 2 mars, suivront 9 mars l'estampe dans l'art nouveau, le 16 mars ce sera sur Vollard, le 23 mars, les gravures fauves et expressionnistes, et le 30 mars, l'œuvre gravée de Pablo Picasso. Voilà pour les conférences au musée Matisse du Cato Cambrésis.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et avant de parler de deux expositions au Centre culturel suisse, celle de Denis Savary, celle de Sabine Baumann, nous retrouverons l'invité de la dispute, le comédien et cinéaste Charounas Bartas. Nous évoquerons aussi les expositions de Renaud Rérès à la Galerie Crève-Cœur et Tabou à la Maison particulière de Bruxelles. Pas de tabou, bien sûr, dans la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute par Antoine Guillot. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Au 19e siècle, le Sarpe-Ladan voyait en lui le frère jumeau de la Joconde, rappelle Éric Bietré-Rivière dans le Figaro. Plus près de nous, l'historien d'art, professeur à Oxford et biographe de Léonard Martin Kemp a jugé le tableau le plus représentatif de Vinci. Fin janvier, ce Saint-Jean-Baptiste, puisque c'est de lui qu'il s'agit, joyau des collections nationales, une des trois œuvres peintes que le génie toscan avait emmené avec lui à la cour de François Ier et au château du Clos Lucé, sa dernière demeure a été décrochée. Le Louvre le retire de sa grande galerie pour une durée indéterminée. Il l'envoie dans ses sous-sols blindés, précisément au centre de recherche et de restauration des musées de France, le C2RMF, où il va être restauré. Charge à Regina Morera, qui a déjà œuvré à rendre sa carnation à la Bezabé au bain de Rembrandt et ses contrastes à l'homme aux gants de Titien et qui est déjà intervenu sur plusieurs œuvres léonardesques, doter une partie des épaisses couches de vernis déposées au fil des siècles. Le Saint-Jean-Baptiste est probablement le tableau du Louvre qui a été le plus reverni, explique Sébastien Allard, le directeur du département des peintures. À chaque fois, on passait une couche pour retrouver un peu de brillance et de profondeur, mais ça ne durait qu'un temps. Aujourd'hui, c'est au point qu'on ne distingue plus la peau de fauve habillant le prophète ermite, ni la croix qu'il désigne de l'index de la main droite. Si son visage dionysiaque androgyne, au sourire de félicité émeut encore, sa chevelure d'or est noyée dans la pénombre, quelques fines boucles exceptées. En 2009, le C2RMF a mesuré l'épaisseur moyenne de ses vernis empoussiérés et oxydés, cause d'un jaunissement et d'un obscurcissement important. Résultat, 110 microns, un chiffre record. Ce voile sera progressivement aminci de moitié. Nous procéderons lentement en fonction des difficultés. Des études et analyses entrecouperont les interventions de Regina Morera, choisies sur appel d'offres et placées sous notre contrôle, assure Sébastien Allard. On le voit, à l'heure de présenter à la presse la restauration à venir du Saint-Jean-Baptiste, le Louvre prenait ses précautions. L'intervention sur des œuvres de Léonard de Vinci est un sujet sensible pour le musée, constate Margot Boudge dans le Journal des Arts. Il y a une grande pression médiatique, reconnaît Sébastien Allard, car la restauration des œuvres de celui que beaucoup reconnaissent comme le peintre le plus génial de tous les temps divise régulièrement les spécialistes et ces débats ne manquent pas d'être relayés par la presse. En 2011-2012, la restauration de la Sainte-Anne avait cristallisé les débats opposant les partisans d'un allègement de vernis prononcé et ceux le souhaitant beaucoup plus modéré. Échaudé par la restauration de Sainte-Anne, le peintre et historien d'art Jacques Franck, spécialiste de la technique de Léonard, appelle ainsi dans la croix à une grande prudence. Dans cette œuvre tardive, encore peu comprise, Léonard ne suggère plus la forme que par des plages d'ombre et de lumière aux frontières indiscernables. Son sfumato pourrait être composé de colorants d'origine végétale ou de vernis teinté, vulnérable en cas d'allègement poussé des vernis. Prudence et pragmatisme, c'est notre doctrine, explique dans le Journal des Arts Sébastien Allard, qui le 12 janvier avait convié quelques journalistes pour expliquer les tenants et les aboutissants de la restauration du Saint-Jean-Baptiste. Les journalistes s'étaient engagés à ne rien divulguer de l'opération avant le 14 janvier pour ne pas troubler les discussions devant se dérouler le 13 lors de la réunion de la commission de restauration et de conservation préventive qui donne deux fois par an un avis consultatif sur les restaurations proposées par les départements du Louvre. Et oui, la com, c'est tout un art. Regardez Jérôme Bosch, des historiens de l'art, rapporte l'AFP dans une dépêche reprise avec enthousiasme par de nombreux sites, ont affirmé le 1er février avoir identifié une nouvelle toile du peintre néerlandais après des années de recherche à l'approche des 500 ans de sa mort. L'été prochain, la peinture, une tentation de Saint Antoine, attribuée jusqu'alors à un élève, se trouvait dans l'entrepôt d'un musée américain, le Nelson Atkins à Kansas City. Les résultats de la recherche ont été présentés alors que le musée de sa ville natale, Bois-le-Duc, s'apprête à ouvrir le 13 février une exposition exceptionnelle regroupant 20 des toiles du peintre du diable. Pour un beau coup de com', c'est un beau coup de com'. Saluez-vous, Harry Bellé, dans Le Monde. Les seuls qui pourraient s'en plaindre un peu, ce sont les responsables du service service de presse des éditions Actes Sud, on ne les avait visiblement pas tenus au courant de ce que le catalogue raisonnait de l'artiste qu'il publie à la mi-février, un effort éditorial important puisqu'il consacre 575 pages à ce maître dont il ne subsiste guère plus de 25 tableaux, contenaient 8 pages sur le supposé scoop. Et pour cause, l'ouvrage a été en partie rédigé par Matthijs Ilzink, coordinateur du Bosch Research and Conservation Project, à l'origine de la redécouverte du tableau. Il avait juste, semble-t-il, préféré réserver la révélation d'informations pour la promotion de l'exposition, dont il est aussi commissaire. Nanti d'une telle publicité, nul doute que l'œuvre sera une des vedettes de l'exposition à venir, et lors de son retour à Kansas City à sa clôture le 8 mai, un des clous de la collection du musée de la ville, son directeur ne s'y est pas trompé, qui a déclaré « C'est un peu comme si votre enfant venait de recevoir le prix Nobel ». Rappelons que Saint-Antoine était invoqué pour soigner les maladies provoquées par l'ergot de seigle, dont les premiers symptômes étaient le délire et l'hystérie collective, et prions pour son intercession.
Vous y connaissez en Saint-Antoine, n'est-ce pas, Antoine
Guillot ? C'est pas le mien, celui-là.
Oui, il y en a tellement de Saint-Antoine. Harry Bellet va se rapprocher de son micro pour nous en dire un peu plus, cette affaire Bosch.
C'est pas une affaire. C'est vrai quand même, si, c'est une affaire. Parce que
un peu quand même.
Oui, un petit peu. On connaît, je crois, 25 tableaux de Bosch. Ben, on a un 26e, ce qui est déjà pas mal. En soi, c'était une info. C'est vrai que l'info, elle a été soigneusement maintenue sous le tapis,
ouais.
Le temps que l'expo ouvre. Et bon, pourquoi pas, après tout. C'est pas comme ça qu'on faisait l'histoire autrefois. C'est quand on trouvait un nouveau tableau, on le signalait dans des revues savantes et tout le monde était content, sauf les attachés de presse. Mais bon, tant mieux, ils font bien leur boulot. Et l'exposition promet d'être très belle, j'y vais la semaine prochaine.
Ah, mec, heureux homme que vous êtes, vous avez bien raison. Jean-Max Collard, Vinci, Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste, oui, pardon.
Écoutez, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire, hein. C'est trop technique pour moi.
Cette nouvelle Sainte-Anne, vous l'aviez trouvée comment quand on l'a été dévoilée? Elle a été montrée à Lens, d'ailleurs, dans le Nord.
Ben, je l'avais trouvé très réussi, très bien. Moi, je n'avais pas eu de soucis avec Sainte-Anne.
Non.
Non.
Non. Et vous, Harry Bellet?
Au bout d'un moment, c'est de la crasse. des chures de mouches, du vernis qui jaunit. Oui, il faut nettoyer. Mais le problème, c'est effectivement, Vinci travaillait beaucoup sur les dernières couches et aussi en vernis. Donc, il va falloir s'arrêter avant, quoi.
Ouais.
Mais ils savent faire ça.
Question de micron.
Question de micron. Mais ils savent faire ça maintenant. Je suis pas inquiet pour Sainte-Anne, ni pour Léonard de Vinci.
Ni pour Saint-Jean-Baptiste. Bon, ça va. Vous nous avez grandement rassurés. Si on allait faire un tour à la galerie Crève-Cœur, qui se trouve, comme chacun le sait, 9 rue des Cascades. C'est ça, Jean-Max Collard. Nouvelle adresse pour cette galerie que vous affectionnez. Qu'est-ce qu'on y voit en ce moment?
Alors, on y voit un artiste français, un jeune artiste français qui s'appelle Renaud Rérez, qui est installé à Berlin et qui s'était fait remarquer. C'est un artiste émergent, hein, qui s'est fait remarquer notamment par... il est dans toute cette mouvance qu'on appelle un peu, sans savoir très bien ce que ça veut dire exactement, post-internet. Et il s'en éloigne, et c'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs, dans ce qu'on ressent dans l'exposition. Et il s'était fait donc remarquer par des sculptures qui étaient plutôt des sculptures anthropomorphiques, comme des momies. Sauf que, au lieu que les momies soient les bandages, c'était comme des tuyaux. Et l'idée, finalement, de personnages qui auraient été, ou de personnes qui auraient été comme ça un peu vidées, non pas simplement de leur fluide, mais tout simplement des données informatiques qui nous traversent, et l'eau participe évidemment beaucoup du monde informatique et de la conduction. Et donc, il y avait comme ça ces figures. Alors, on les retrouve un tout petit peu, mais ces figures anthropomorphiques. Et sauf qu'ici, l'exposition prend la forme d'une sorte d'appartement. C'est la fiction d'un intérieur où vous avez des canapés qui sont augmentés, une sorte de greffes en tissu, d'organes. Alors on peut s'asseoir dans les canapés et puis se recouvrir comme ça de tout ce qui déborde, des queues bizarres, des organes un peu qui traversent un peu comme ça le salon. Et puis on peut aussi apercevoir une sorte de de sculptures et de peintures qui représentent plutôt des fenêtres, mais des fenêtres qui seraient tournées vers l'intérieur de l'appartement, comme si on était entre intérieur et extérieur, un procédé qu'on retrouvera peut-être dans l'exposition tout à l'heure de Denis Savary. Et puis au milieu de tout ça, vous avez donc des personnages, des créatures qui sont très étranges, qui sont des personnages à la fois bioniques et complètement pelucheux, qui sont des ours mal léchés. On ne sait pas très bien si c'est une sorte de cauchemar ou de zoo un peu particulier. Et ce que je pense aussi de l'exposition, c'est qu'au fond, c'est une exposition qui, à mon avis, pour Renoirez, est une exposition justement de transition. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a émergé comme ça dans le post-internet et qui, je pense, ici, essaye d'investir autrement, de réinvestir autrement la sculpture, qui se renoue avec des formes comme ça, les formes organiques qui font penser aussi bien à Annette Messager, aussi bien à Michael Hay, aussi bien à d'autres artistes. Bref, c'est un artiste qui continue son chemin, qui prend son essor. Et je crois malgré tout que cette fiction de cet intérieur et ces drôles d'occupants, eh bien c'est un endroit où on peut passer un bon moment.
Oui, mais qui est Tania? Parce que l'exposition s'appelle « When Tania Arrived Home », quand Tania est arrivée à la maison.
Alors ça, je ne sais pas qui est Tania, mais j'imagine que ça participe de la fiction narrative de ce petit intérieur un peu étrange.
Pour lequel vous avez du goût, on l'entend. Cette exposition de Renaud Rérès, elle est visible jusqu'au 5 mars à la galerie Crève-Cœur, donc 9 rue des Cascades. C'est dans le 20e arrondissement de Paris. De Paris à Bruxelles, allons à la maison particulière avec vous, Harry Benet. Qu'y voit-on?
C'est déjà plus grand qu'un appartement. C'est une maison, 3 étages, qui appartient à un couple de collectionneurs, Myriam et Amaury de Solages. Lesquels ont décidé d'ouvrir ce bâtiment à la visite et font un peu comme la Maison Rouge d'Antoine de Galbert, ils exposent des collections des autres. Bon. Le principe est assez simple, on laisse aux collectionneurs le choix des œuvres qu'ils vont prêter, mais, l'accrochage est de la part des deux propriétaires. Et l'exposition que j'y ai vue est assez rigolote, s'appelle Tabou. Et elle est née d'une réflexion d'une visiteuse qui était venue à une précédente expo qui s'appelait État d'âme, où il y avait des photos de Rinecke d'Ischra. Je prononce sûrement très très mal le nom de Rinecke d'Ischra. Fait des photos. Et en l'occurrence, les photos c'était des mamans qui étaient photographiées juste après leur accouchement. Mmh. Ils sont pas au mieux de leur forme, au pluriel bien sûr. Et la visiteuse avait dit, mais vous pouvez pas montrer des choses comme ça, c'est tabou. Et donc ils ont décidé de faire une exposition sur la notion de tabou. Je dois dire qu'il n'y a pas grand musée aujourd'hui qui oserait une expo pareille. Il faut vraiment que ça vienne d'une passion très particulière. L'invité d'honneur, parce qu'ils en ont toujours un, en l'occurrence c'est Wim Delvoye, le dernier surréaliste belge que j'ai dans la peau au sens propre. Et
Vous êtes tatoué, Harry Benet?
Oui, j'ai un tatouage, bien sûr.
De Wim Delvoye?
Oui, il tatoue pas que les cochons.
Ah bah. Les hommes aussi.
Les
humains.
Certains.
Ah et, bon.
On va passer.
On apprend des tas de choses.
On va passer.
Vous êtes beaucoup trop vêtu pour cette émission.
Voilà, mais ouais. La prochaine fois, on la fera à poil. et.
Tabou.
Voilà, donc, tabou.
Wim Delvoye à l'honneur.
Wim Delvoye à la maison particulière. Alors, là aussi, je dois dire qu'ils sont très pédagogues. C'est-à-dire qu'on s'amène là-dedans, il y a des fauteuils, on peut s'asseoir, on peut regarder les œuvres tranquilles, et puis il y a des classeurs. Il y a des classeurs sur chaque table basse, et dans les classeurs, il y a tout ce qu'il faut savoir sur ce que vous regardez, au cas où vous auriez envie de le savoir. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est vachement bien.
Et qui d'autre à part Wim Delvoye, alors? Et qu'est-ce qu'on y voit de Wim Delvoye? Parce que...
Alors, de Wim Delvoye, on voit tout ce qu'il n'a pas prêté à Téhéran. Il fait en même temps une exposition.
C'est vrai.
Oui,
c'est vrai,
fait une expo au musée de Téhéran. Et donc, il y a un tas de trucs qu'il ne pouvait pas montrer. Vous imaginez bien.
Mais c'était mis dans les boîtes à Téhéran. C'est recouvert de voile. Je ne comprends pas, là. Wim Delvoye à Téhéran.
Ouais. Et voilà. Et donc, Wim Delvoye leur a dit, tout ce que je ne peux pas prêter à Téhéran, je vous le prête.
Donc tout ce qu'il y a de plus tabou, forcément.
Voilà, évidemment. Mais sinon, on a un tas de choses magnifiques dans la matière. Bon, évidemment, les photos de Mapplethorpe ne sont pas les moins représentées. On a également Bettina Reims, vous imaginez bien pourquoi. Il y a un tas de gens, parfois très surprenants. Il y a quelques tableaux de Rustin, par exemple, Jean Rustin, qui ne sont pas... toujours réjouissant, mais enfin qui au moins oblige à se poser la question de notre rapport au corps. Voilà, c'est vraiment, c'est Rano bien sûr, et j'en oublie, parce qu'il y en a
monde,
plein,
hein.
Il y a du beau monde, et c'est bien fait.
Bon, alors, je suis en train de chercher l'adresse, ça y est, de la maison particulière, elle est rue du Châtelain, à Bruxelles, et donc on peut y voir jusqu'au 26 mars cette exposition Tabou. Dans quelques minutes, on va s'intéresser à deux expositions du Centre culturel suisse. Avant ça, on va retrouver l'invité de la dispute qui est toute cette semaine, Sharounas Bartas. Sharounas Bartas qui a une riche actualité, y compris d'exposition. On va en parler. Vous pouvez retrouver cette actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute. Poursuivons cette semaine avec vous, Sharounas Bartas, et avec Elzbieta Yosadeh, qui assure magnifiquement la traduction de ces entretiens que nous avons, pour parler d'art plastique et signaler qu'en plus de la rétrospective de vos films au Centre Pompidou, il y a une exposition de photographie au passage de Retz à Paris jusqu'au 27 février. Few of them, ça veut dire quelques-unes d'entre elles, en parlant de ces photographies. Quelle place occupe la pratique de la photographie dans votre vie, Sharounas Bartas?
La photographie, d'abord, c'était une sorte de hobby pour moi. Mais quand j'ai commencé à filmer, la nécessité d'enregistrer avant les tournages, enregistrer, repérer tout ce que je voyais, est devenue très importante. Les personnes que je m'apprêtais à filmer, les endroits, les paysages, il fallait les avoir dans mon appareil et les photographier sans cesse. C'était une partie de la préparation très importante. Je pouvais accrocher mes acteurs sur les murs, leurs photos, pour les regarder. Parce que parfois, par hasard, tu te rends compte qu'il y a une personne qui ressemble beaucoup à une autre personne. Alors que tu ne l'avais pas vu quand ils étaient séparés. Voilà, c'était une sorte de coulisse, de point de départ.
Mais le fait qu'elles soient aujourd'hui exposées, c'est-à-dire dans un lieu d'exposition, elles n'ont plus le même statut, ces images. Elles sont des œuvres, elles aussi.
Oui,
on peut dire ça comme ça. Je les ai fait de manière sincère et assez méticuleuse. Certaines d'entre elles, je les ai développées moi-même. Manuellement, je connais tout le processus de développement. J'avais mon laboratoire, je développais moi-même. Dans mon studio, Kinema. J'ai tout le matériel nécessaire jusqu'à maintenant, même si on ne l'utilise plus.
Pour qui connaît votre cinéma, Sharounas Bartas, on sait l'importance du cadre et la grande précision et justesse de vos cadres. Il se trouve que c'est vous qui êtes le chef opérateur de vos films aussi. Qu'est-ce qui définit pour vous la justesse, le fait qu'un cadre soit juste?
Il n'y a pas de réponse exacte à cette question, ou en tout cas, il n'y a pas une seule réponse.
Par exemple,
si on parle de l'intérieur, c'est un peu plus simple, c'est plus facile à expliquer. D'abord, il faut décorer l'intérieur ou bien enlever ce qui ne va pas. D'abord, il faudrait commencer par dire qu'on ne voit pas avec nos yeux le cadre que nous voyons après au cinéma. On voit des centaines de petits cadres, de petits plans.
Et Et on n'a pas une seule dimension comme ça qui crée un cadre général. Si je vous demandais maintenant de dessiner précisément votre cuisine avec chaque objet qui s'y trouve, même si vous vous en rappelez, vous ne pourriez pas le faire. Parce que vous ne la voyez pas de manière complète, vous la voyez avec votre vue périphérique.
On voit de la même façon ce qui se passe sous la table, bien sûr. Il fait un peu noir là, parce que notre œil, il fonctionne comme un objectif, et puis il peut s'adapter à une lumière plus ou moins forte. Alors que quand tu filmes, la caméra, elle ne s'intéresse pas à la force, à la luminosité. Elle filme dans une seule luminosité qui est pré-réglée. C'est pour ça que nous devons avoir tout d'abord un cadre que nous pouvons voir tout de suite. On n'a pas besoin de regarder autour. Moi, j'appelle ça l'axe. C'est une axe à travers laquelle tu vois tout de suite. Bien sûr, après, tu peux regarder un peu autour de cet axe principal, mais c'est elle qui montre où il faut regarder.
Et
après vient toutes les autres choses qui sont importantes, la composition, la lumière,
pour
pouvoir avoir une image, cette image dont nous avons besoin.
Donc,
dans un intérieur, il y a des règles qui régissent la façon dont on peut travailler la lumière. Il faut avoir le bon endroit et la bonne lumière.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir. Ah, bah pendant que Harry Bellet nous montre son tatouage, on a de la chance, c'est sur une partie du corps tout à fait montrable. On fera qu'on fasse une photo, on la mettra sur le site de la dispute. On va aller déconcentrer. Bon, le mercredi soir, art plastique, y compris sur la peau des critiques ici présents. On va se rendre au Centre culturel suisse, rue des Francs-Bourgeois, à Paris, où l'on peut voir en ce moment deux expositions. L'une est consacrée à Denis Savary, s'appelle Jour Blanc, l'autre à Sabine Baumann. Les commissaires sont les directeurs du Centre culturel suisse, Jean-Paul Fellet et Olivier Kaiser. Commençons et faisons la part belle à Denis Savary, si vous le voulez bien, parce que c'est l'exposition dont les dates d'ouverture sont encore les plus longues au jour où je parle, puisque cette expo de Denis Savary n'est visible qu'au 3 avril. Celle de Sabine Baumann ferme le 21 février, on en parlera quand même tout à l'heure. Alors on parlait il y a peu du même coup, pour rendre hommage au travail accompli par son directeur Christian Bernard. Denis Savary a été l'année passée exposé au MAMCO, mais aussi précédemment à la Kunsthalle de Berne, à la Ferme du Buisson ou encore au Jeu de Paume. Il a été aussi en résidence au pavillon du Palais de Tokyo. Il est représenté par la galerie Xipas qui lui consacre aussi une exposition en ce moment, elle visible jusqu'au 5 mars. Donc voilà, riche actualité pour Denis Savary. et on suit les pas de Jean-Marc Scolard dans leur centre culturel suisse, peut-être d'abord dans sa cour, parce que c'est presque comme ça qu'on est accueilli aussi.
Oui, dans la cour ou...
Ou dans l'entrée, c'est une vidéo.
Il y a une très belle vidéo. Ouais, Denis Savary, c'est un artiste suisse, il vit à Genève, mais il y a peut-être une autre manière d'entrer dans l'exposition. C'est que j'évoquais tout à l'heure à propos de Renaud Reyrès l'idée d'une exposition d'intérieur, une exposition d'appartement. Et si on pourrait prendre comme ça des répertoires de l'exposition, on pourrait se dire que avec Denis Savary, l'exposition c'est peut-être plus d'abord une exposition paysage. Et j'ai même envie de dire, c'est de reprendre le mot de Harald Zeman, le grand curateur, le grand commissaire d'exposition Harald Zeman, qui avait parlé à propos d'une exposition comme d'un poème dans l'espace. Et moi, je crois que c'est un poème dans l'espace. Au fond, c'est un poème plastique. Toute l'exposition peut être évidemment envisagée de cette manière-là. Alors, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quand vous entrez, et notamment... Vous avez possibilité dans la cour d'apercevoir ou de voir vraiment, de vous confronter à deux grandes sculptures dont vous demandez si c'est des noix de coco givrées ou des culs d'éléphants, des noix de coco givrées sur pattes géantes ou des culs d'éléphants qui auraient comme ça traversé les Alpes avec Hannibal. Et puis quand vous montez à l'étage, toute l'exposition s'appelle Jour blanc et joue sur de cette thématique, j'ai un peu de cette saison presque un peu, parce qu'il y a quelque chose d'assez, c'est une saison mentale, l'idée de jour blanc, comme ça. Et donc, quand vous êtes dans l'espace central à l'étage de l'exposition, là, vous êtes dans un espace qui est à la fois un intérieur et un extérieur. Un intérieur parce que vous avez tout le long du mur, des matelas qui sont posés et qui forment une sorte de...
À la verticale.
À la verticale, et qui sont alignés sur le mur, un peu comme des sarcophages.
Avec des drôles de formes, ces matelas.
Ils en ont les formes. Et en fait, c'est des formes qui sont des formes creuses d'un temple, du temple d'Héra de Paestum au sud de l'Italie, et dont l'artiste a repris comme ça, les colonnes, mais justement les formes entre les colonnes. Et il a utilisé justement ces formes creuses pour l'imprimer, enfin pour découper des matelas dans ces formes-là. Donc ça donne à la fois une architecture du lieu et en même temps une architecture évidée et en même temps un alignement comme ça de sarcophages, de matelas sarcophages. C'est quand même déjà assez étrange.
Oui, parce que le matériau compte évidemment dans la
bien
perception
sûr,
qu'on en
bien
a.
Bien sûr,
c'est du matelas.
C'est
vu comme montré comme tel. Hein.
Un peu blanc et comme tel. Donc il y a une matérialité, il y a une corporealité, c'est assez étrange. Et puis au centre de l'espace, vous avez... deux fontaines, qui sont des petites fontaines d'eau, un peu avec des effets de lumière qui font qu'elles sont un peu comme des multicolores. Et
disco.
À la fois, oui, un peu disco. D'ailleurs, Denis Savary, je crois, parle de pyrotechnie liquide, un peu de micro-feu d'artifice liquide. Bref, c'est très étrange. Ça laisse un peu perplexe, puisque l'espace n'est pas logique. Et on est vraiment dans un... Oui, dans un milieu qui est tout à fait... moi, j'ai trouvé ça tout à fait beau et poétique. Et puis, quand on redescend, il y a une très belle petite vidéo mise sur un moniteur et un petit matelas qui s'appelle Dimanche, où il a filmé un lac, le lac de Joux, avec des gens qui glissent sur le lac. C'est un mélange de Bruegel et de Caspar David Friedrich. Moi, je trouve que c'est une très belle pièce que Denis Savary montre en tout petit. Et j'ajouterais juste une chose à propos de Denis Savary. C'est que moi, ce qui m'intéresse dans un artiste comme Denis Savary, outre... tout ce qu'on peut dire sur cette question de la poétique, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, pour se faire vraiment reconnaître, ou se faire même connaître, se faire remarquer dans le paysage de l'art contemporain, eh bien beaucoup d'artistes sont incités à marquer justement leur territoire, voire à marqueter leurs propres œuvres et à agir comme des marques. Et Denis Savary, c'est vraiment tout le contraire. C'est quelqu'un qui ne signe pas vraiment des pratiques, qui prend toujours des voies un peu de bifurcation, qui a un esprit, je ne sais pas si c'est l'escalier, un esprit d'escalier, mais en tout cas, si c'est un esprit d'escalier, il est aussi en spirale. Et c'est assez particulier. Et surtout, il ne se fixe dans aucun médium, dans aucune forme, ce qui n'empêche pas de suivre sa ligne, de travailler sur des anachronismes. Il y a cette sculpture posée au sol, une sorte de poupée, un peu une sculpture du 19e siècle, mais qui est en même temps très informe, très bizarre, et qu'il appelle faune. Bref, tout ça joue de quantité d'ingrédients, ça ne se formalise pas. Et c'est ça qui fait évidemment, je dirais, la dimension poétique de cette exposition. On voit bien que ça ne se cristallise pas simplement dans les œuvres qui sont là.
Alors, visite vue cette fois par Harry Bellet de Denis Savary au Centre culturel suisse.
Bah, j'ai honte là parce que j'ai plus rien à dire. Ouais, enfin, si quand même. Justement sur le temple de Paestum, j'avais un vieil architecte, mon papa, Dieu ait son âme, qui m'expliquait que l'architecture c'était l'art des vides et des pleins. Là, on est en plein dedans, ou en vide dedans, si on veut. Il a réussi à montrer le vide. Et ça, c'est ce qui est amusant, d'ailleurs, dans le registre, c'est que c'est plus de l'architecture seulement, c'est aussi de la sculpture. Dans les années 50, il est un peu oublié, malheureusement. Il y avait un Italien qui s'appelait Francesco Marino di Teana. Di Teana avait théorisé ce qu'il appelait le vide actif, c'est-à-dire que c'est vraiment l'espace intérieur de ces sculptures qui les faisait vibrer. Aujourd'hui, tout le monde le fait. À l'époque, c'était une première. On est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire montrer le vide, ce qui n'est pas la chose la plus évidente pour un artiste, même si d'aucuns en ont fait l'expérience, dans des expositions désormais célèbres. Sculpter les vides, c'est pas rien. Je vais pas remonter jusqu'à la hausseuse, mais c'est le vide du moyeu de la roue qui permet de faire tourner la roue. Et là, on est dans quelque chose de très, effectivement, très poétique. Ouais. Très poétique, mais aussi à la fois presque on est presque dans une théorie qui reprend celle de Litéana et qui promet beaucoup, parce que je pense que il y a là des choses à creuser. Voilà, sculpter les vides, c'est pas rien. Et puis après tout, j'en profite pour rendre hommage à Reynos Tsipas, le galeriste,
bien sûr.
Un des hommes les mieux élevés que je connaisse, et c'est fait toujours plaisir de connaître des gens bien élevés. Voilà.
Et qui lui aussi présente une exposition Denis Savary.
Et vous êtes coiffés pareil tous les deux.
Oui, bah écoutez, ça fait déjà au moins un point commun, si ce n'est pour le reste. Mais c'est vrai que sur l'exposition de Denis Savary, vous parlez de ce vide dans cette grande salle du premier étage, vous avez évoqué ces deux fontaines pyrotechniques. Cette sculpture très étrange, parce qu'elle est aussi entourée de cercles de lumière, trois cercles de couleurs lumineuses différentes, qu'on peut voir, si on arrive, et c'est fait comme cela, on la voit d'abord de dos, peut-être une petite montagne suisse, sauf qu'après le verso, ce sera plutôt une sorte de Bouddha à mamelles aussi, enfin c'est quelque chose comme ça, et puis une autre pièce très impressionnante, entre sculpture et installation, qui est quand même très, très violente aussi, elle, et qui sorte de condensé de matériaux métalliques, hein, c'est quelque chose qui pend du plafond avec des formes assez étranges, des chaînes, des choses qui ont l'air plus coupantes. Enfin, après, j'ai lu, parce que on fait notre travail, que tout ça était aussi un espace domestique, puisque c'est une cuisine, en fait, qui inspire là Denis Savary, mais on est dans quelque chose de très doux, puisqu'on a le matelas, et quelque chose de très tranchant avec cette pièce-là, Jean-Max Collard, qui est impressionnante, elle aussi.
Oui, la cuisine est impressionnante. C'est vrai que j'ai oublié de l'évoquer.
Elle est présente.
Et pourtant, elle est présente, et elle ajoute, et c'est une pièce infranchissable, puisque c'est vraiment...
On peut pas y pénétrer, on fait le tour.
On fait le tour de cette cuisine qui est à la fois déconstruite, puisqu'on a l'impression que tous les morceaux sont un peu défaits, comme si elle était démontée, éclatée, puis en même temps, elle est serrée, elle est aussi constituée comme ça de tout ce réseau de chaînes. Et ça donne évidemment un aspect très, très particulier. Là encore, c'est très plastique. On est vraiment dans une sorte d'installation sculpture qui est très belle. Mais on pourrait dire, vous voyez, j'évoquais Bruegel et Friedrich.
Oui, j'avais noté les mêmes noms, parce que la vidéo est absolument magnifique.
Elle est remarquable.
Elle est extraordinaire.
Je suis heureux de vous l'entendre.
Ah non, mais bon, moi, je suis resté.
Alors même qu'il la met quand même en petit, un coin.
Oui, à l'entrée, à l'accueil, en face de l'accueil.
Un autre artiste aurait fait cette œuvre-là. Il l'aurait mis en très grand dans la salle principale.
Fascinante.
Et là, il y a une finesse. Et aussi, donc, on parle de ces allusions, de cette relation à l'architecture et au temple de Paestum. Mais en même temps, les matelas alignés au mur, c'est aussi d'autres souvenirs. C'est Claude Lévesque, par exemple. Donc, on voit bien comment c'est quelqu'un qui retraite aussi une culture très contemporaine. Moi, je pense aussi à un autre artiste suisse qui est Pierre Vadi, qui est aussi un artiste de Genève et qui est dans des ambiances assez, qui peuvent être parfois assez proches. Bref, et je sais que Denis Savary a des dialogues, en quelque sorte, avec des artistes de ces générations très différentes. Il circule du point de vue de son son information artistique entre évidemment de différentes époques. Il le retraite jamais de manière littérale. Ça passe vraiment, et c'est vrai que par exemple quand on pense à Claude Lévesque, ou que ce soit dans Les Chaînes, que ce soit dans Les Matelas, on voit l'humeur, et en même temps ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Il est dans un retraitement poétique vraiment qui est le sien. Bref, c'est vraiment un artiste qui a une vraie singularité dans un monde où la singularité, comme je disais, est trop souvent marquée.
Oui, une singularité avec une profondeur, parce qu'il y a cette exposition qu'on peut voir sans rien savoir de Denis Savary et avoir une expérience esthétique, émotionnelle, mais c'est très très bien aussi, je pense, de pouvoir écouter cette émission, se référer aux entretiens. Il y a le journal Le Phare du Centre culturel suisse où il y a un long entretien avec Denis Savary. C'est bien aussi de voir, parce que c'est quand même, comme on l'a compris ici, aussi très référencé, mais enfin, avec des références dont il s'affranchit, avec lesquelles il produit
Le jardin, chose. La promenade, de toute façon, ça a toujours été une pratique très très cultivée.
Donc c'est le cas encore pour cette exposition, donc qui dure jusqu'au 3 avril. Quelques mots, pardon, rapidement, mais sur Sabine Baumann, l'exposition, alors c'est juste une petite salle, pourrait-on dire, du Centre culturel suisse, elle s'achève dans quelques jours, le 21 février. Vous nous en donnez quelques images, Harry Bellet?
Moi, ce qui m'a, je pense que c'est une exposition extrêmement idéologique. J'en prends pour preuve un extrait du dossier de presse. Les prolongements du corps que sont l'iPhone, les jouets sexuels ou l'ordinateur portable. Bon, le choix de ces trois objets, je considère que là, il y a une forme d'idéologie. Pourquoi pas la canne à pêche? Pourquoi pas la faucille? Pourquoi pas le marteau? C'est très intéressant de voir quelles sont les références d'aujourd'hui. C'est l'iPhone, c'est pas la canne à pêche. Bon, c'est un choix. C'est un choix urbain, mais c'est un choix. Il y a un petit côté Bill Copley dans les dessins. Pas brut, parce que c'est exactement où ils vont. Savent exactement où ils vont, mais il y a ce côté un peu lâché, un peu je fais des figures, des personnages, c'est un peu comme les dessins, les peintures un peu cochonnes de Copley, sauf que c'est moins cochon, je le regrette, même si
c'est moins cochon parce que sous terre, les choses se passent très mal. Hein,
les jouets sexuels, je les cherche encore, mais bon, voilà. Cela dit, le Centre culturel suisse a quand même cet avantage de nous remuer un peu les Suisses.
Carrément.
Ah oui, la prochaine exposition à venir, Caroline Schreiber, à partir du 26 février, s'intitule « Quelques trous du cul et un aspirateur automatique ».
Vous serez à l'inauguration.
Moi, je vais pas rater ça. Les Suisses sont vraiment des gens surprenants.
Vous aviez un mot à dire, pardon.
C'est une voix de la figuration suisse-allemande, cette voix fantasmagorique, c'est vraiment presque une tradition un peu suisse bizarre, suisse un peu fric, et en même temps, c'est évidemment, comme l'a dit, c'est très queer.
Denis Savary, jour blanc jusqu'au 3 avril, l'expo La Galerie qui s'y passe, c'est jusqu'au 5 mars, Sabine Baumann jusqu'au 21 février seulement. Denis Savary, Sabine Baumann au Centre culturel suisse. Il y a une monographie consacrée à Denis Savary qui va très bientôt paraître, éditée par le Centre culturel suisse avec de nombreux contributeurs.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the
right. Le jeu de la dispute, retour sur le jeu d'hier au soir, Antoine Guillot.
Vous avez gagné des invitations pour le film Goya, vision de chair et d'os. Je vous ai demandé où a eu lieu l'exposition qui a inspiré ce film. C'était naturellement à Londres, à la National Gallery.
Et ce soir, on fait gagner des places pour le très beau film de Sharounaz Bartaz, Peace to Us in Our Dreams, en répondant à quelle question?
Dans quel film français Sharounaz Bartaz joue-t-il un gourou chef d'orchestre?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Harry Bellet, Jean-Max Collard, Antoine Guillot. Merci à l'équipe de la dispute, Hugo Boursier, Sam Boutata, Daniel Fino, Antoine Guillot et Virginie Le Duo. Merci à Claude Niort qui assurait la prise de son ce soir, Daniel Fino qui réalisait cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute musique avec Véronique Mortaigne et Olivier Lam. Nous parlerons du nouvel album de Rihanna, de celui de Rokia Traoré et de celui de Nonkin. On retrouvera une revue de presse culturelle d'Antoine Guillot, on retrouvera Sharounaz Bartaz et un nouveau cadeau à gagner avec le jeu de la dispute. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. Dans quelques minutes, Laure Adler. Avant cela, le journal de la rédaction.